おかしい、おかしい。
C'est l'heure de l'émission Dialogue en Congolais avec Claude Sorbert, la présentation.
Bonsoir et bienvenue à l'émission Dialogue entre Congolais de ce soir. Nous sommes le mardi 17 novembre 2008, rencontre au bassin Joe Laurent Kunda. Hier dimanche, à Jomba, au Nord Kivu, y a-t-il des avancées enregistrées à l'issue de cette rencontre? Et que peut apporter la proposition du gouvernement congolais faite au Rwanda pour combattre les FDLR? C'est la problématique que nous abordons ce soir avec trois invités. Maître Jean Bouillou, député national CPRD et premier vice-président de la commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale. Bertrand Vissimois, porte-parole du CNDP de Laurent Kunda. Et René Lemarchand, professeur émérite des sciences politiques de l'Université de Floride aux États-Unis d'Amérique. Il a publié plusieurs ouvrages sur l'Afrique des Grands Lacs, le Rwanda, le Burundi et la RDC. Il intervient justement depuis la Floride aux États-Unis. Vous vous en doutez, nos auditeurs ont réagi nombreux au thème de ce soir. Umbo Talama de Butembo Nord Kivu pense que la rencontre au bassin Joe Laurent Kunda ne peut rien résoudre. D'après lui, le gouvernement doit renforcer le dialogue avec le Rwanda sur la question des FDLR, ainsi qu'un dialogue direct entre le président Joseph Kabila et Nkunda. Didier Mbaya de Mbujimayi au Kasaï Oriental estime que les revendications de Laurent Kunda sont et seront toujours floues. Pour lui, Laurent Kunda combat les FARDC et cherche à la fois à réformer et à restructurer cette même armée. Quels sont les moyens dont il dispose pour doter la RDC d'une armée professionnelle et disciplinée? Enfin, Robert Baomé de Bukavu au Sud Kivu veut savoir si toutes les revendications de Kunda sont légitimes et si sa rencontre avec Obasanjo apportera des solutions à la crise de l'Est.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
Le chef du CNDP a réaffirmé sa volonté de respecter le cessez-le-feu. Laurent Kunda le disait hier dimanche à Jomba au Nord Kivu à l'envoyé spécial des Nations Unies pour la région des Grands Lacs lors d'une rencontre dans le territoire de Rutshuru. Et c'est Olusegun Obasanjo, ancien président nigérian, qui l'a annoncé au cours d'une conférence de presse tenue peu avant son départ de Goma pour Kigali. Denis Lukeso, notre consoeur, nous donne les grands axes de cette rencontre avec la presse.
C'est à Jomba, localité du territoire de Rutshuru, située à 80 km de Goma, que les deux hommes ont eu un tête-à-tête suivi d'une réunion élargie avec les membres de deux délégations. Au cours de leurs entretiens, l'envoyé spécial des Nations Unies et les chefs du CNDP ont échangé sur des questions politiques, économiques et sécuritaires. Dans son point de presse, le président Obasanjo a souligné que Laurent Kunda a réaffirmé sa volonté de respecter les cessez-le-feu. C'est dans cet esprit aussi que le chef du CNDP a demandé une réunion sans condition avec le gouvernement, avec la médiation de l'envoyé spécial des Nations Unies. En outre, il a donné son accord pour maintenir un couloir humanitaire en vue de faciliter l'assistance aux déplacés. Au chapitre de requête, le chef du CNDP a beaucoup insisté sur la présence des FDLR en RDC et a mis l'accent sur la nécessité de mettre en place une armée nationale bien formée et bien équipée. Laurent Kunda a réitéré sa volonté de défendre l'intérêt des minorités en général en RDC et du Nord Kivu en particulier. Répondant à une question relative sur la crédibilité des propos de M. Kunda, Olusegun Obasanjo a souligné qu'il travaille dans ses dossiers sur la base de la confiance réciproque et qu'il espère que Kunda respectera ses engagements et qu'il les jugera le moment venu sur ses actes. Goma, Denis Bouquet sur Radio Okapi.
Et lors de sa rencontre avec l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies hier dimanche à Jomba, au Nord Kivu, le général Laurent Kunda a manifesté son désir de négocier avec le gouvernement de Kinshasa sous la médiation de l'envoyé spécial des Nations Unies en vue de mettre fin à la crise qui sévit à l'est de la RDC. Suivant l'essentiel des préoccupations de Laurent Kunda avec l'ancien président nigérian Olusegun Obasanjo, au micro de notre consoeur Denise Lukeso.
Then it's a question to about.
Il cherche la protection de tous les peuples minoritaires sur l'étendue de la RDC et particulièrement au nord-est du pays. Il a parlé aussi de l'intégration de ses militaires dans l'armée nationale. Il a parlé d'une armée nationale bien formée, bien équipée. Il a réaffirmé qu'il croit aux états le feu qui doit être respecté par les deux parties. On a convenu de mettre sur pied une structure tripartite composée des gouvernements, CNDP et d'une partie neutre comme l'Union africaine pour la surveillance du cessez-le-feu. Il a accepté la création du corridor humanitaire pour permettre l'assistance des déplacés. Il a accepté l'envoyé spécial des Nations Unies comme médiateur dans les négociations entre lui et les gouvernements.
Je vous rappelle que les propos d'Olusegun Obasanjo ont été traduits par notre confrère Piero Elamiji. Et j'ai dans ce studio Maître Jean Bouillot. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes député national, PPRD, et premier vice-président de la Commission Défense et Sécurité à l'Assemblée nationale. Votre réaction par rapport à cette rencontre entre Olusegun Obasanjo, l'ancien président nigérien, et Laurent Nkunda?
Oui, la réaction d'abord, c'est une suite logique des rencontres qu'il y a eu à la fois à Nairobi et des échanges divers qu'on a eu entre Kigali et Kinshasa, et aussi de tout l'intérêt qui a été porté par l'Union européenne, par l'Union africaine, par les Nations unies à cette question, à savoir tout le monde, dès le redémarrage des hostilités, s'est dit, c'est clair, c'est Kigali, et tout le monde est allé à Kigali pour dire, il faut cesser, il ne faut pas continuer. Alors, il est que normal qu'après, disons, en même temps qu'on poursuit ces négociations avec Kigali, eh bien qu'il y ait un intérêt multiforme, même si à un niveau donné, le peuple s'interroge aussi sur la nature des rapports entre les Nations Unies et une rébellion, et quelle place on veut y conférer, et tout ça, ce sont des questions qui reviennent au quotidien. Mais n'empêche que dans l'axe central, nous retenons que la réaction de la communauté internationale a dû pointer du doigt qui est responsable de ces attaques.
C'est-à-dire ?
Donc Kigali, quoi. Tous les efforts.
La communauté internationale a dit explicitement que c'est Kigali qui est à l'origine de la situation sécuritaire préoccupante à l'est de la RDC.
Mais moi, j'ai remarqué que toutes les délégations importantes sont allées d'abord à Kigali. Donc là, c'est un fait. C'est un fait. On ne spécule pas. Hein. Les gens sont dit, allez, il faut vous rencontrer, les deux présidents, allez-y. C'est qu'on a compris qu'en fait, le problème, ce n'est pas Laurent Nkunda.
Ça, c'est vous qui le dites, hein. C'est pas la communauté internationale.
Non, attention. Attention.
Vous interprétez les déplacements des quelques membres de la communauté internationale, c'est ça?
Non, mais ce n'est pas une interprétation. L'Union européenne est à Kigali. Et les États-Unis ont envoyé quelqu'un à Kigali. L'Union africaine a envoyé quelqu'un à Kigali. La SADC. Mais tout le monde est allé à Kigali.
Merci beaucoup. On vous garde encore avec nous, Maître Jean Bouillot. Nous avons également en ligne Bertrand Bissima. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le porte-parole du CNDP de Laurent Nkunda. En bref, hein, comment interprétez-vous la visite de l'ancien président nigérian Olusegun Obasanjo à Jomba, rencontré justement le leader de votre mouvement, Laurent Nkunda?
Je pense que c'est encore une fois une preuve de l'accompagnement de la communauté internationale pour une solution négociée au Congo. Et je pense également que c'est une preuve que la communauté internationale veut réellement s'engager pour cette question-là. Et que la communauté internationale veut également que nous-mêmes, les belligérants, nous puissions assister, nous envoyer des sortes de signaux politiques. Parce que il faut se dire que la communauté internationale tout fait pour nous. Et ici, il faudra que nous-mêmes, nous puissions exprimer notre volonté de bien nous engager sur le processus de paix. Et c'est ce que nous avons fait de l'autre côté. Nous avons dit que nous soutenons l'action de la communauté internationale. Nous soutenons également la démarche de Olusegun Obasanjo. Nous soutenons tout ce qui nous a été proposé. Vous avez entendu. Et il nous a été proposé de reconduire le cessez-le-feu. Nous avons adhéré à ce principe.
Mais ça a été violé, hein. Vous avez violé ce cessez-le-feu vous-même, d'après la MONUC hier même, hein.
Nous avons rendu, quand nous avons vu la note d'information, nous avons dit que nous avons déporté la lumière par rapport à cela. Il est vrai que pour la monique, l'occupation par le CNDP d'une position nouvelle conçue, je la sais pas, mais il faut remonter dans la nuit des temps pour savoir et pour interpréter l'action du CNDP. En réalité, ce qu'il y a eu, c'est que depuis samedi, les CDC nous ont provoqué, nous provoquent de manière constante, et plutôt constamment, je veux dire, et nous avons dit déjà samedi, moi, le juge intervenu sur les médias, où nous avons mis en garde les CDC, nous avons dit, si jamais ils reprenaient des hostilités contre nous, nous allions réagir fortement et nous allons les chasser des territoires à partir d'où ils tirent sur nos poussières. Et dès dimanche matin, pendant que nous attendions la délégation des Olisegun au Bassin-Jour, les FADC nous ont attaqué sur plusieurs points. J'ai pris des oppositions autour de Kanyabayonga. Nous avons été dans l'obligation de réagir. Notre intention, c'était de faire taire les armes qui tiraient sur nous. Ce n'était pas dans l'intention de pouvoir continuer. Je vous annonce déjà que le CNDP a convoqué le bureau politique qui va se réunir déjà dès demain. Et je pense qu'il y a d'autres décisions assez importantes qui vont être prises. Je crois que ça va surprendre les gens pour témoigner réellement l'engagement du CNDP dans le processus de paix.
Merci beaucoup, Bertrand. Dites-moi, nous avons également en ligne depuis la Floride René Lemarchand. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur émérite.
J'ai accueilli la médiation de Bassanjo avec un optimisme modéré.
Allez-y.
Optimisme, parce que même s'il ne faut pas s'attendre à un miracle, ça signifie d'abord que quelqu'un d'extérieur à la région, un Africain qui d'ailleurs jouit de l'estime de la communauté internationale, va prendre à bras le corps le dossier de la guerre au Nord-Kivu. Et je vous rappelle que Obasanjo, c'est quand même quelqu'un qui est intervenu en Côte d'Ivoire, en principe, c'est lui qui a participé à la fondation de la LEPAD, c'est lui qui a participé à la mise en place du African Governance Forum des Nations Unies, enfin bref, c'est quelqu'un qui est nimbé d'une certaine aura de conciliateur, et je crois que c'est quelque chose de très très positif qu'il faut souligner. Deuxièmement, sa médiation signifie un coup d'arrêt à l'escalade régionale qui reste encore, je crois, le danger principal de la crise actuelle. Et c'est surtout quelqu'un qui se pose en conciliateur crédible, comme le prouve, par exemple, le fait que Laurent Kabila a affiché la volonté de vouloir trouver un cessez-le-feu.
Laurent Kunda, vous voulez dire Laurent Kunda?
Oui, Laurent Kunda. Je crois qu'il a exprimé la volonté d'arriver à un cessez-le-feu.
Mais qu'il a violé, ils ont violé quand même, hein.
Écoutez, j'y viendrai, parce que cette question de violation du cessez-le-feu, vous savez, je crois que les responsabilités sont très partagées. Mais je voudrais souligner, disons, que la médiation arrive à un moment opportun. Pourquoi ? Bien d'abord parce que vous savez que la Cour militaire opérationnelle de Goma a prononcé 8 verdicts contre les militaires congolais qui étaient accusés de crimes contre l'humanité. Deuxièmement, on a l'impression que Adolphe Mouzito, le nouveau Premier ministre, est ouvert au dialogue. Il est allé à Goma et ça représente quand même un progrès par rapport à l'attitude, disons, quelque peu somnolente de son prédécesseur.
Merci.
Alors, du côté de la MONUC, on assiste à, disons, un effort réel pour tenir Goma et pour renforcer ses effectifs. Il y a aussi le fait qu'à la suite de la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne, il est possible de prévoir un renforcement des effectifs sur place auprès de la MONUC.
Professeur, s'il vous plaît, est-ce que la visite de Olusegun au Bassanjo à Jomba, rencontrer Laurent Kunda, est-elle une légitimation de la rébellion que mène le CNDP sur le plan international?
Absolument pas.
Comment?
Absolument pas. Non, ce n'est pas du tout une légitimation, disons, de la rébellion de Laurent Kunda. Ça veut dire surtout que on va se concerter pour obtenir que la minorité tutsi obtienne des garanties. Et ça, c'est absolument crucial. Je suis tout à fait d'accord avec Laurent Nkunda que la minorité tutsi est une minorité en danger. Ce que Nkunda ne dit pas, c'est qu'il est en partie responsable de cet état de fait. D'autre part, il faut se pencher sur le dossier FDLR, qui est lié intimement à l'ouverture politique qui doit se faire au Rwanda pour permettre au FDLR de rentrer au Rwanda. Mm-hmm. Et troisièmement, c'est un autre aspect dont il faudra parler, c'est celui qui a trait à l'exploitation des minerais par toutes sortes de factions, de milices, y compris bien sûr les Maïmaï. Mais je crois que la guerre à laquelle nous assistons à l'heure actuelle est une guerre qui est à la fois motivée par le fait que, oui, les Tutsis ont besoin de certaines garanties qu'ils n'ont pas réussi à obtenir jusqu'à présent, mais aussi au fait que c'est une guerre pour la terre.
Merci, merci beaucoup, professeur. Nous vous gardons encore dans cette émission. Bertrand Bissimon, je voudrais vous poser une question. Vous avez reçu l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies dans la région de Grand Lac, ancien président nigérian Olusegun Obasanjo. Quelle est maintenant la prochaine étape, maintenant que vous avez pris langue avec un délégué de Ban Ki-moon?
Eh bien, la prochaine étape va dans le sens d'abord de la cérémonie, ce qui a été entendu. Je veux dire que nous attendons profondément, par exemple, la firme de l'intervention bilatérale qui vient d'être décrétée il y a de cela déjà deux ou trois semaines. Nous voulons que le gouvernement, par exemple, en réponse à l'ouverture de couloirs humanitaires par le CNDP, que le gouvernement lève toutes les barrières qui ont été imposées par les FARDC sur les différents actes routiers en vue de faciliter la circulation des personnes et de leurs biens. Et nous voulons également que prochainement, qu'il soit mis sur pied une commission chargée du monitoring du FLC. Et cette commission que déjà Olusegun a annoncée sera constituée par le CNDP et le gouvernement et sous la présidence ou la facilitation de l'Union africaine. Et déjà de demain, il y a une réunion importante qui va se passer sur l'axe Kanyabayonga-Rundi, une réunion qui va réunir le chef d'état-major du CNDP, des troupes du CNDP, et le commandant des forces terrestres des FARDC pour étudier les modalités de la mise sur pied des zones tampons. Et je crois que ça, c'est une étape très importante parce qu'elle pourra faire en sorte qu'il n'y aura plus possibilité de troupes de se rentrer dedans. Donc, on va faire en sorte que qu'on puisse finalement faire en sorte que les troupes se séparent et là, il n'y aura pas d'accusation des uns contre les autres, des violations, des faits parce que des attaques mutuelles. Et ça, c'est, je crois, une mesure très importante qui va continuer à rehausser la confiance entre les dirigeants. Alors, cela veut dire quoi? Cela veut dire que prochainement, après cette étape-là, nous attendons que maintenant, que nous puissions ouvrir les dialogues entre nous et le gouvernement, sous les auspices évidemment des médiateurs qu'on a choisis, mais que nous proposons déjà au Basando, parce qu'il est déjà sur la route, et déjà sa première venue, et constitue déjà des avancées assez importantes dans le processus.
Mais est-ce que vous attendez peut-être prochainement également une possible rencontre entre le président de la République, Joseph Kabila, et Laurent Nkunda?
Mais c'est tout ce que nous souhaitons. Nous pensons que les deux responsables, les deux personnalités doivent se rencontrer pour continuer à garantir la confiance et créer au sein des peuples congolais l'espoir. Parce que ce sont les deux personnalités du pays aujourd'hui qui peuvent apporter la paix aux Congolais, qui peuvent donner de l'espoir au peuple congolais. Vous savez qu'aujourd'hui, les Congolais se disent, mais écoutez, c'est vrai qu'Nkunda il a des revendications, c'est vrai que Kabila c'est le chef de l'État, c'est vrai qu'Nkunda a une armée, et le gouvernement également, il une armée. Aussi longtemps que les deux chefs de l'État ne se seraient pas rapprochés, plutôt les chefs de l'État et le président du CNDP ne se seraient pas rapprochés, il y aura toujours peut-être des mésententes dues à leurs collaborateurs, peut-être, parce que j'ai fait allusion ici, par exemple, au sein des cloches que nous ne cessons d'avoir de quelques membres du gouvernement qui, les uns nous disent qu'ils sont pour le dialogue, les autres disent qu'ils ne sont pas pour le dialogue, qu'ils sont pour le programme Amani, d'autres nous disent qu'ils sont les envoyés du chef de l'État où ils envoient pour nous dire que nous devons dialoguer. Donc il y a plusieurs sons de cloches. Mais si les deux personnalités se rencontrent et qu'ils se parlent, je pense que ça sera déjà une manière d'opérer.
Merci beaucoup, Bertrand Dissima. Votre réaction, Maître Jean Bouge, je rappelle que vous êtes député national PPRD et premier vice-président de la Commission de défense et sécurité à l'Assemblée nationale.
Oui, je dois dire d'abord, l'Assemblée nationale a délibéré en disant qu'il favorisait le dialogue. Ça a été une séance publique que tout le monde a suivi. Mais il est vrai également que ce dialogue, ce n'est pas un rituel, parce que, comme vous le savez, le Rwanda avait été intégré après le dialogue intercongolais, comme tout le monde dans l'armée, tous ces miliciens, une partie avait même été brassée, ainsi de suite. Il y avait tout un processus.
Mais il voulait des garanties internationales hein, pour réintégrer lui et son armée, l'armée nationale.
Bon, écoute, on ne va pas chercher la poule dans la tête, mais ce dont on doit s'assurer, c'est si c'est cela la revendication. Les garanties internationales, les garanties données à des minorités lors des négociations de 106 en Afrique du Sud ont été données à tous. C'est pour ça aussi que les minorités ont fait partie du gouvernement de transition, que les minorités ont été élues, y compris dans le Parlement national actuel où je siège. Il y a dedans des minorités et des Tutsis qui ont été élus par la population et qui représentent cette population de la région où se trouve justement le Rwanda. Donc la question est de savoir quelle est finalement la revendication à laquelle le gouvernement n'a pas répondu depuis 2003. Et donc, en revenant, lui, sur des demandes récurrentes, eh bien, la question est de savoir, une fois des réponses données à ces demandes, est-ce qu'on aura bel et bien cette paix-là? Bon, sans dire que je me réjouis qu'il y ait une intervention internationale qui a pu l'écouter, qui va écouter les autres, et qui va, à un moment donné aussi, juger si oui ou non ce qui est demandé, protection de minorité, intégration des militaires, une réunion de dialogue, si tout cela a un sens.
Oui, merci. Professeur René Marchand, je vous demanderai d'être assez bref. Hein. Nous avons quelques revendications de Laurent Kungalou du CNDP ici, des négociations directes avec le gouvernement de Kinshasa, la renégociation de tous les contrats signés par le gouvernement congolais avec des entreprises chinoises, que les forces gouvernementales cessent de toute forme de collaboration avec les rebelles hutu-rwandais, des FDLR. Il y a aussi la protection de toutes les minorités ethniques en RDC, l'intégration des combattants au sein de l'armée nationale congolaise, l'intégration au sein de l'administration du gouvernement, des policiers et fonctionnaires travaillant actuellement en territoire rebelle, la promotion de la bonne gouvernance et un travail dans l'armée. Est-ce que ce n'est pas, certains auditeurs hein, disent que ces revendications sont assez floues, c'est le cas de Didier Mbaya de Mbujima et au Kasaï oriental. Qu'est-ce que vous en pensez?
Écoutez, certainement, c'est une très longue liste de revendications et je ne parle pas, disons, d'entrer dans les détails, mais je voudrais vous faire part de mon sentiment, à savoir que aussi longtemps que la concertation se focalisera sur des problèmes militaires, on n'aura pas une paix durable. Il faut se concentrer en priorité sur les trois dossiers qui demandent une attention soutenue, à savoir celui des garanties pour la minorité Tutsi. Et je voudrais ouvrir une parenthèse et vous signaler qu'il n'y a pas un seul Tutsi représenté à l'Assemblée législative du Sud Kivu, il n'y a pas un seul Tutsi à l'Assemblée législative du Nord Kivu, il y a un seul Tutsi dans le gouvernement du Sud Kivu, un seul Tutsi dans le gouvernement. C'est une situation parfaitement inacceptable.
Mais certains analystes, professeur, s'il vous plaît, professeur
René, une garantie pour la minorité.
Professeur René, s'il vous plaît,
il faut s'en occuper.
Professeur René Le Marchand, mais certains analystes congolais disent que dans l'armée, ils sont assez bien représentés. Hein,
par rapport c'est exact. Vous. Mais je fais allusion aux moyens de pression légitimes de la population civile. Je ne fais pas référence à l'armée. Deuxième dossier qui est absolument urgent, c'est celui du FDLR, et tout dépend du Rwanda. Le FDLR représente un groupe assez diversifié, le RUD est prêt à déposer les armes et à rentrer au Rwanda. Il faut que le président du Rwanda accepte l'option ouverture pour faire en sorte que les FDLR reviennent en toute sécurité dans leur pays d'origine.
Professeur René Lemarchand, parce que nous sommes presque à la fin de la première partie, est-ce que vous pensez que cette rencontre, le rencontre d'Obasanjo, a amené quand même certaines avancées?
Ah, parfaitement, sans aucun doute. Et ce qui est très important, c'est d'avoir un conciliateur de l'extérieur, externe à la région en quelque sorte. Et je crois que la présence d'Obasanjo est un facteur très important.
Merci.
Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, Obasanjo est nimbé d'une certaine aura de conciliateur et il a déjà fait ses preuves.
Merci beaucoup. Vous avez, Maître Jean Bouillot, le syndicat a parlé de couloirs humanitaires. On sait que beaucoup d'ONG disent que certains des milliers et des milliers de déplacés n'ont pas accès justement à l'aide que leur apportent les ONG, les différentes organisations. Mais qu'est-ce que vous comptez faire, vous, au niveau du gouvernement? Je veux poser la même question au CNDP pour laisser réellement concrétiser. Quelles garanties vous donnez pour que les ONG puissent avoir accès justement à ces milliers de déplacés dans les forêts qui n'ont pas accès à l'aide?
Mais non, d'abord, il faut souligner... Allô?
Oui, allez-y, professeur. Oui. Allez-y, Maître Jean Bouillot, rapidement, s'il vous plaît.
Oui, d'abord, il faut dire que on ne peut que vouloir que les êtres humains qui sont en détresse, qu'ils soient secourus au moment de leurs difficultés. Et ce n'est pas nous qui faisons obstruction à cela. Si vous avez bien suivi les informations de mes jours, il y a eu réellement, disons, des couloirs humanitaires qui ont été ouverts. Et nous ne faisons pas obstruction à ce qui est ce couloir humanitaire. Il faut secourir les êtres humains. Donc, sur cette question, je crois qu'il n'y a pas de débat ou de point de vue négatif quelconque de notre côté.
Mais comment garantir alors le cessez-le-feu qu'a réitéré le CNDP au président Obasanjo?
Oui, mais le CNDP a...
De votre part, hein, du côté gouvernement.
Oui,
est-ce que le CNDP vous accuse aussi de violer
Oui, mais voyez la contradiction. Vous suivez toutes les images sur les écrans, tout le monde dit l'armée congolaise est en débandade, elle est partie, elle a fui et tout ça. Et en même temps, chaque fois on vous dit, oui, c'est l'armée met des barrières, l'armée se bat, mais attaque. Mais comment des gens qui fuient, au regard des médias que nous suivons, vous pouvez dire qu'ils attaquent encore? Donc là, il y a une contradiction flagrante. C'est chaque fois le CNDP qui attaque. Mais il va de village en village, voilà.
Bertrand Bissima, je vous demanderai d'être assez bref. Hein. Vous avez parlé de couloirs humanitaires que vous allez laisser pour que les déplacés aient accès quand même à l'aide. Comment garantissez-vous cela dans la mesure où vous ne cessez pas de combattre, hein, l'armée nationale?
Je dois préciser une chose, que le couloir humanitaire, ce n'est pas aujourd'hui que nous l'ouvrons, nous les avons toujours ouverts. C'est vrai que depuis que nous avons été à la porte de Goma, nous avons pris la décision d'ouvrir le couloir humanitaire et toutes les populations déplacées qui ont fui vers Goma étaient en train d'entrer, et ça tout le monde peut témoigner, la presse les témoigne. Et je ne vais pas me lancer ici dans le milieu de polémique avec mon frère et mon ami Jean Bouillot. Je voudrais simplement dire qu'aujourd'hui, sur les barrières, sur les artères routières de Goma et Goma vers l'intérieur du pays, il y a des barrières dirigées par les forces gouvernementales qui empêchent la circulation des populations. Et je crois que si et mon frère peut reconnaître que les FARDC existent des barrières qu'il faut les brandir pour finalement briller à tout le monde passer, ça serait une bonne chose.
Mais comment, mais comment
aujourd'hui du camp, les déplacer du camp de Mugunga par exemple, ils ne savent pas quitter le camp.
Mais c'est pas que justement à Kiba qui par exemple, vous savez bien qu'il y a des déplacés juste à côté, mais ça ne vous empêche pas de vous tirer dessus avec les FARDC.
Non, mais il faut rentrer dans l'histoire pour savoir réellement qui a tiré sur qui, dans qui va qui. Vous savez que nous étions à la porte de Goma. Nous avons reculé de 12 kilomètres. Nous étions à l'aéroport de Goma. Nous avons reculé de 12 kilomètres pour permettre justement à ce que les humanitaires puissent accéder de vos populations. Je crois que il n'y a pas une grande action. Les travaux sont faits en faveur des populations que nous avons fait. Vous savez que aujourd'hui encore, et chaque fois nous constatons plus sur le même axe. Et chaque fois que les humanitaires se distribuent ou assistent les déplacés dans le camp de Kibati, les FARDC tirent en l'air, la force grenière, tout le monde l'a vu, la presse était là, elle était présente. Les FARDC ont dispersé les déplacés, les FARDC sont allés piller le camp de Kibati.
Merci beaucoup.
Je crois que nous devons nous dire la vérité, je crois. La vérité est une, mais il faut qu'on puisse nous le dire.
Merci.
Nous le dire clairement.
En une phrase, Bertrand Bissimo, comment vous, au niveau du CNDP, comptez-vous garantir le cessez-le-feu que vous avez encore réitéré au président Obasanjo, mais que vous avez violé d'après un communiqué de la MONU? Comment garantir cela?
Je crois que je suis revenu sur ce qu'on appelle les violations du cessez-le-feu. Je suis revenu sur ça. Je suis très émouvé. Mais la garantie la plus suffisante, je crois, par rapport à cela, c'est la concrétisation de cette volonté sur le terrain. Nous avons déjà commencé à le concrétiser. Les humanitaires, c'est tout dans notre territoire comme ils veulent. Vous pouvez poser la question à toutes les ONG qui sont à Goma, toutes les ONG qui sont dans notre territoire, ils peuvent vous témoigner. Donc, il n'y a pas plus de garantie que la bonne foi se concrétise sur le terrain.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Que peut-on apporter, que peut apporter la proposition du gouvernement congolais faite au Rwanda pour combattre les FDLR? C'est la deuxième partie de l'émission Dialogue entre Congolais de ce soir, mais avant de la poursuivre, ce n'est d'abord le rappel de nos contacts.
Dialogue entre Congolais. Vous pouvez encore participer à cette émission en téléphonant au 081 890 66 78 ou encore par SMS au 081 05 15 778.
La RDC vient de proposer au Rwanda de mettre à la disposition des forces armées de la RDC des officiers de renseignement rwandais afin de constater sur le terrain les efforts fournis par le Congo pour mettre fin à la présence des FDLR et autres interahamwe sur son sol. C'est ça affirmé à Radio Kapi, le ministre congolais des Affaires étrangères, qui vient d'effectuer une visite de 2 jours à Kigali au Rwanda. Alexis Tambo Mwamba précise que seul les FARDC, la MONUC ainsi que les troupes armées pourront combattre les FDLR et non les troupes rwandaises. Alexis Tambo Mwamba au téléphone de notre confrère Willy Akonda.
C'est la République démocratique du Congo qui a proposé que Kigali puisse mettre à la disposition de nos forces armées des officiers de renseignement pour pouvoir constater. Parce que systématiquement, Kigali crie à la face du monde entier que nous coopérons avec les génocidaires, qu'ils sont nos alliés, qu'ils sont intégrés dans notre armée. Et partout, on nous dit que nous avons intégré les FDLR et que nous sommes en train de les protéger. Je demande formellement la rumeur selon laquelle nous avons fait appel aux troupes rwandaises pour combattre les FDLR. Combattre les FDLR, c'est une opération qui sera faite par nos troupes et groupes amis qui pourraient venir, y compris la MONUC, mais pour que Kigali ne continue plus à utiliser les FDLR comme prétexte aux interventions intempestives chez nous, nous avons proposé à Kigali d'envoyer ses officiers de renseignement militaires qui ne vont pas participer au combat, mais qui se rendront compte que ce combat-là se mène effectivement.
Le Rwanda est prêt à envoyer ses officiers de renseignement RDC pour régler la question des FDLR. C'est en ces termes que s'est exprimé l'envoyé spécial du président rwandais, Paul Kagame, dans la région de Grand Lac, face à la proposition du gouvernement congolais faite le week-end dernier. Joseph Moutaboba estime que la question des FDLR a trop duré parce qu'il n'y avait pas de Rwandais qui suivaient la situation sur le terrain en RDC. Joseph Moutaboba a été joint au téléphone par notre confrère Pierrot et la Meji.
Monsieur Joseph Moutaboba, le gouvernement de Kinshasa vient de faire une proposition au gouvernement rwandais demandant à ces derniers d'envoyer des officiers de renseignement en RDC en vue de se rendre compte de la manière dont les FARDC traitent les FDLR. Quelle a été la réaction du Rwanda par rapport à cette proposition?
La proposition nous a été faite au cours de la réunion que nous avons eue entre les deux délégations ici à Kigali. Et le Rwanda a accueilli un docteur Massimo à la délégation congolaise. Et nous espérons que les actions vont commencer, parce que c'est ça qui compte, c'est pas seulement de nous inviter à aller regarder, il faut bien qu'on ait quelque chose à voir qui se passe. Donc le Rwanda est tout à fait d'accord que c'est une bonne chose, et nous attendons voir la réalisation de ce que qui a été promis.
Mais du côté rwandais, à quand prévoyez-vous l'envoi effectif de ces officiers en RDC?
On va les envoyer quand le Congo sera prêt. Donc si on nous dit « venez demain », on ira. Si on nous dit « venez hier », nous serons déjà partis, si on n'est plus prêt.
Est-ce que cette fois, vous pensez que cette procédure va régler définitivement la question des FDLR à l'est de la République démocratique du Congo?
Cette question a trop duré et la question n'a pas duré parce qu'il n'y avait pas d'observateur ou un médecin. Donc, il faudrait que plutôt la raison pour laquelle cela n'a pas été fait jusque-là soit faite dans soit levée et que les gens puissent voir l'action concrète qui vient, même après autant d'années. Il n'est jamais calme pour faire du bien et il n'est jamais calme pour faire du mieux.
Maître Jean Bouillou, est-ce que vous pensez que cette nouvelle proposition de la RDC au Rwanda va finalement débloquer la question qui divise les deux pays, la question relative à la présence des FDLR et autres milices interahamwées?
Oui, il faut d'abord remonter à l'histoire et savoir que la revendication antérieure était que l'armée rwandaise elle-même vienne sur le territoire congolais traquer ces Rwandais qui sont installés dans certaines parties des savanes et de forêt. Eh bien, cette proposition avait été rejetée par la République parce qu'il n'était pas possible qu'une armée étrangère vienne dans le pays pour y faire des opérations militaires.
Est-ce que ce n'est pas déjà un pas pour l'armée rwandaise de venir traquer elle-même les FDLR et autres miliciens auto-rwandais en RDC?
Non, le pas actuel plutôt, c'est que nous-mêmes, notre armée, avec la MONUC et les autres qui vont intervenir, traque ces gens-là. Et le but a été fixé depuis déjà quelques années, c'était de séparer les miliciens d'avec les populations qui sont plus en otage. Parce qu'il y a dans ces Hutu-Rwandais des personnes, des femmes, des enfants qui sont en quelque sorte bloqués en otage par ceux qui ont les armes. Et il faut absolument arriver d'abord à la solution de reprendre ceux qui ne combattent pas et de les ramener au Rwanda. Ensuite, il va se faire que parmi les combattants, il y en a qui vont, comme il y en a déjà eu, il y a plus de 3 000 qu'on a renvoyés les deux dernières années. Donc, il y a des gens qui pourraient, une fois qu'ils ne sont plus contraints, déposer les armes et rentrer au Rwanda. Et enfin, il restera probablement ceux qui voudront aller jusqu'au bout du combat. Et là, évidemment, il faut, c'est là-dessus que notre armée va s'occuper de ces gens-là.
Mais qu'est-ce que la RDC obtient en retour?
Non, d'abord, sur le plan...
Par rapport à ce que vous proposez au Rwanda.
Oui, mais sur le plan des principes internationaux, il n'est pas acceptable que les gens qui ont commis des crimes soient protégés par un gouvernement. Alors, vous demandez qu'est-ce qu'on a en retour?
Oui, au niveau du gouvernement.
Oui, mais je vous ai dit au début que lorsque la guerre a commencé, tout le monde est allé au Rwanda. En fait, on a compris que la guerre a été provoquée par le Rwanda, et quand il y a eu des négociations, le Rwanda a dit non, moi, mon problème, c'est l'FDLR. Et c'est pour ça qu'il y a à la fois la question Kunda, mais en fait, Kunda lui-même dit c'est l'FDLR, et il y a la question FDLR.
Merci beaucoup, Maître Jean Bouillou. Justement, nous avons la question des FDLR est l'une des principales revendications du CNDP. Nous avons justement dans cette émission le porte-parole du CNDP, en l'occurrence Bertrand Bissimwa. Votre réaction par rapport à cette proposition du gouvernement congolais d'avoir sur son territoire des officiers rwandais qui pourraient vérifier comment les FARDC et le gouvernement traquent les militants du Rwanda?
Je pense que nous avons parfois dans le discours politique, nous crions à la face du monde que nous sommes un pays indépendant, ou disons que nous sommes un pays souverain, et notre pays, nous-mêmes, nous bafouons la souveraineté de notre pays, nous-mêmes, nous bafouons l'indépendance de notre pays. Je ne peux pas comprendre que pour des raisons, pour des questions liées à la sécurité des Congolais, que le gouvernement se sente bousculé par l'étranger pour assurer la sécurité des Congolais. Vous savez que dans des pays européens, par exemple, il suffit que vous soyez sans papier pour qu'on vous prenne et qu'on vous embarque dans un avion.
Mais qui ça peut dire, Bertrand, dites-moi.
Et même noté, je ne peux pas comprendre que pour des questions de sécurité du pays, que des étrangers qui se permettent d'entrer sur le sol congolais, armés à la main, tu vois des congolaise, l'organisation congolaise et l'administration des entités territoriales congolaises, et pour que les gouvernements congolais se mettent, il faut qu'ils se sentent poussés par un pays qu'on peut vendre, il faut qu'on cherche à impliquer le Rwanda physiquement au Congo pour que réellement le Rwanda puisse témoigner que réellement le gouvernement congolais veut sécuriser son peuple, sa propre population. Moi, je trouve que c'est vraiment honteux. Nous avons la capacité, nous comme Congolais, nous avons la capacité de défier les terres. Il suffit que nous puissions le vouloir. Il suffit qu'aujourd'hui, que nous puissions nous réduire, nous, comme société. Le gouvernement, comme gouvernement. Nous sommes dans un processus de terre. Nous négocions, nous constituons une armée forte. Nous pouvons défier le Rwanda.
Merci beaucoup.
Pour avoir quelque chose à voir.
Merci beaucoup. On va rejoindre en Floride le professeur René Marchand. Professeur, vous êtes professeur émérite des sciences politiques à l'Université de Floride. Est-ce que vous pensez que cela peut faire avancer les choses, cette proposition du gouvernement congolais?
En bref, non. Je pense que toute tentative de vouloir appliquer une solution militaire à un problème politique, et le dossier des FPLR est essentiellement un problème politique, est voué à l'échec. Je crois que ce qui est absolument essentiel, c'est de démontrer aux FDLR que s'ils déposent les armes, ils auront l'option de retourner dans leur pays d'origine sans être mis en prison ou pire encore. C'est pourquoi je serais favorable à des conversations qui mettent l'accent sur la façon de convaincre le président du Rwanda de procéder à une ouverture politique. C'est l'ouverture politique de la part du Rwanda qui mettra fin au dossier FDLR. Il y a bien sûr un aspect militaire, en ce sens que il faut d'abord identifier les FDLR. L'armée congolaise à l'heure actuelle n'a pas la capacité de venir à bout des FDLR par des moyens militaires.
Mais professeur,
ça, je voulais, c'est l'essentiel de la question.
Professeur, mais il y a eu d'autres mécanismes dans le passé. Il y a eu, par exemple, le mécanisme de vérification conjoint entre le Rwanda et la RDC pour vérifier les accusations de part et d'autre. Il y a eu également un centre de renseignement sous la supervision des États-Unis qui a été placé dont le siège est à Kisangani. Mais pourquoi on a, semble-t-il, abandonné tout cela pour finalement opter pour cette nouvelle proposition?
Écoutez, je ne suis pas, disons, au courant du contenu des accords qui ont été conclus à Kisangani d'ailleurs. En partie, je crois qu'il y a eu des différences d'opinion extrêmement profondes au sein des deux délégations, aussi bien au sein de la délégation de Kigali que de celle de Kinshasa. Ce qui est certain, c'est qu'il y a à l'heure actuelle, au sein des FDLR, un groupe, le RUD. Je crois que c'est le Rassemblement Unifié pour la Démocratie. Le RUD est d'accord pour déposer des armes et arriver à un accord pour le retour au Rwanda.
Merci beaucoup.
Je crois que les RUD, si cette faction des RUD est autorisée à rentrer au Rwanda et à la faculté de participer en tant que citoyen rwandais à la vie politique du Rwanda, ce serait un grand pas en avant.
Merci beaucoup, professeur. J'ai quelques réactions des auditeurs. Il y a Umbo Salama de Butembo Nord Kivu qui pense que le gouvernement doit renforcer le dialogue avec le Rwanda sur la question des FDLR, ainsi que le dialogue direct entre Kunda et Kabila. Jojo Kikanza de Ruingi au Nord Kivu confirme qu'ils entendent des tirs à l'arme lourde à Ruingi et pose la question de savoir quel serait l'objet de cette rencontre. Andy Mouchipaï de Limbashu au Katanga pense que les propos d'Nkunda ne sont pas à prendre en considération. La décision d'un cessez-le-feu viendra de Kigali quand notre gouvernement acceptera de livrer les Interahamwe. Et Femme Fataki Arsène de Kikuitobandunu pense que c'est de la distraction. Si Nkunda était un vrai patriote, il allait combattre les FDLR au lieu de tuer les Congolais sous prétexte de libérer du régime de Kinshasa qu'il accuse de soutenir les FDLR. Maître Jean Bouillot, vous voulez, est-ce que le dialogue ne doit pas se faire avec Kigali justement pour régler cette question, comme le dit Umba Salama de Butembo?
Oui, le dialogue est en cours avec Kigali, ça c'est évident. Mais aussi, tout à l'heure, je voulais réagir au propos de Bertrand.
Rapidement.
Pour dire qu'il ne connaît pas l'histoire.
les Hutus qui sont entrés au Congo, le Congo avait fermé ses frontières à Célébrés. C'est la communauté internationale qui avait demandé au Congo d'ouvrir les frontières pour qu'ils entrent. C'est pas nous qui les avons amenés ici pour les garder chez nous. Ils sont entrés à la demande de la communauté internationale.
Mais c'est vrai que cette proposition du gouvernement d'avoir des officiers de renseignement rwandais pourrait être une clé, une solution à ce problème justement des FDLR.
Oui, c'est le moindre mal, qu'ils viennent faire le monitoring eux-mêmes avec notre armée. C'est important.
C'est par vos propos que nous terminons cette émission. La réalisation était assurée ce soir par Kéline Couté, la mise en onde par Mémine Kindou. Merci à toute l'équipe de Dialogue en Congolais qui vous a préparé cette émission. Titi Mputu, Karine Kaja, Berli Chaïka, merci à nos invités de ce soir. Je vous dis bonsoir chez vous et à demain.